Une vie, une œuvre, Antoine de Saint-Exupéry, 1900, Lyon, 1944, au large de Marseille. Ils sont cinq enfants, nés de Jean de Saint-Exupéry et Marie de Foncolombe. Leur père décède en 1904 et c'est leur grand-père, Charles de Foncolombe, qui accueille la famille dans son château à La Mole. En 1907, quand ce dernier décède, la famille part pour Lyon, chez une tante, Madame de Tricot. Antoine est un élève moyen, mais il a le goût des inventions et imagine un système d'arrosage à vapeur ou encore, avec le menuisier du village, construit une bicyclette volante. Il deviendra pilote. Antoine a 26 ans quand son premier texte est publié dans la revue d'Adrienne Monnier, Le Navire d'Argent. Suivront Courrier Sud, Vol de Nuit, Terre des Hommes, Pilote de guerre, et le 6 avril 1943, chez Reynal et Hitchcock, en français et en anglais, Le Petit Prince, l'ouvrage pour lequel il est universellement connu. Lydia Banitzak signe, avec Ghislaine David, Une vie, une œuvre, Saint-Exupéry.
Je vais vous épater un petit coup, je vais vous montrer comme j'ai une belle voix. Je vais vous offrir une récréation en vous chantant une petite chanson. Et ça, c'est pour vous faire plaisir. Celui-là qui était mon père n'a jamais connu mon nom. Oh, je m'embrouille, je fais trop. Non, je vais en prendre une autre. Celle-là est trop longue. Pour retrouver un jour ma douce Rome éboué. Oula, oula la la.
C'est un texte avec le regard étonné, le nez étonné, l'ovale étonné. Et pourtant, il se dégageait de son visage clair et sain une impression de grand sérieux, tantôt évangélique et tantôt scientifique. Dirais-je que nous devâmes amis tout de suite. Il avait une façon d'attaquer les questions et les frometons qui convenaient à mes méthodes. C'était direct, adroit, sous l'impalpable nappe de fantaisie et de négligence. Il était abondant, rieur et brusquement attentif, comme on l'est à ces moments où passe soudain devant la façade de l'esprit le côté d'une chose qu'il ne s'était jamais montré. Alors, Tonio devenait l'écrivain qu'il fut, l'écrivain qui manque. Quelque chose comme un Vigny, bien plus affranchi, mais tout aussi pur et strict, et qui aurait été pourvu en excédent de toute la noblesse de caractère et de la continuité morale du sens de l'air. À ces moments, les uns qu'il avait tués sous lui le servaient. Il s'élevait dans l'azur, vers le quartz céleste, sur les planeurs d'une très belle langue française.
Alors là, je fais maintenant la checklist, hein. Donc, je vérifie que les commandes sont bien libres, le manche et le palonnier. Ensuite, je vérifie pour l'huile. Je vérifie pour l'huile, donc la température, la pression. Je vérifie ensuite, bon, l'hélice, tout va bien, ça tourne. L'essence, donc, c'est bien ouvert. On a la pression et on a le plein. Donc là, il y a deux magnétos pour l'allumage du moteur et on vérifie que les deux magnétos marchent.
Réchauffage
carburateur.
Quitter l'image Juliette avant.
Pour éviter le givrage.
Au revoir, Fox, l'image Juliette.
On vérifie le ralenti. Le ralenti est bon. Bon, tout le monde est bien attaché. On y va?
D'accord.
Une vie, une œuvre, Antoine de Saint-Exupéry et le rire des étoiles.
Alors là, on va... Qu'est-ce qu'on va survoler comme zone?
Donc là, j'ai une surprise pour vous.
Ah!
On va passer pas loin de Haguet, donc où il y a la famille d'Haguet.
Philippe Jung.
Et on va également essayer de faire un survol de la Mole. Il y a pas loin le château de la Mole.
D'accord.
Et ensuite, donc, on va aller survoler l'endroit où ont été identifiés les restes de l'avion de Saint-Exupéry.
Et aussi le lieu où on a trouvé cette fameuse gourmette.
Oui, tout ça c'est au même endroit, effectivement.
c'était un tel rêve depuis l'enfance pour Saint-Exupéry, depuis l'âge de 12 ans, depuis qu'il avait fait son baptême de l'air secret, de voler, d'aller plus loin, d'aller dans l'immensité, d'aller, je dirais presque jusqu'à l'éternité, les constellations, les étoiles. Ce qui compte pour lui, c'est partir, décoller, voler, le vide. Et puis, bien la chute, c'est pas si important que ça.
Voilà la zone, c'est là.
D'accord.
Alors en fait, l'avion, donc c'est dans la zone des îles, là, hein, des petites îles.
Alors en fait, l'épave, elle a été dispersée comme un puzzle dans toute la zone.
Déjà, à l'impact, l'avion a été sérieusement désintégré vu la violence du choc, hein, puisque même le métal a été plié, quoi. Enfin, je veux dire, le métal épais. Hein.
C'est-à-dire qu'il a été abattu. Il a été abattu.
Il aurait été abattu. Ce qu'on sait, c'est que l'avion pique verticalement à grande vitesse. Parce que les deux pipes d'alimentation du turbocompresseur qui étaient en forme de Y se sont retrouvées comme ça, alignées.
Ah.
Voilà.
Donc on connaît l'axe de la chute.
On connaît l'angle de piqué.
Mais il n'y a pas eu l'Allemand qui l'a abattu, qu'on
oui,
avait retrouvé.
Oui, mais c'est Horst Rippert qui prétend qu'il l'a abattu sur le tard. Et c'est d'ailleurs très, très drôle, si on peut dire, parce que la gourmette, personne n'y a cru, alors que Rippert, tout le monde le croit. Or, autant la gourmette est un indice formel, autant Rippert, il se manifeste 50 ans après. Hein, et...
Vous pensez qu'il a voulu se faire passer pour...
On ne sait pas, ça reste un peu bizarre. Hein,
Ah oui, mais c'est incroyablement romanesque comme histoire.
Absolument.
C'est une vraie enquête.
Et donc, c'est l'endroit où les pièces ont été... certaines pièces ont été retrouvées, donc le train d'atterrissage et la poutre arrière-gauche.
Et là, l'eau, elle est profonde ici?
Alors, c'est quand même relativement profond, hein,
ah oui.
Plus de 50 mètres en tous les cas. Ah ben, le voilà le château.
Ah.
Regardez.
Ah oui, magnifique.
Et la chapelle, ça va être la petite chose qui est devant, là, en bout d'elle. Donc, normalement, la propriété de Fontcolombe est à droite, sera sur notre droite. Je pense que c'est déjà la piste qu'on voit, là. Hein. Donc, il y a un château. Et la mère de Saint-Exupéry est en fait enterrée dans une petite chapelle qui est à côté du château.
Vous avez inventé une bicyclette à voile. On avait demandé à Vieux Gouvernant de fabriquer une voile avec un drap de lit. On avait fixé cette voile à la bicyclette et on s'est lancé à toute allure vers la fin du parc. Et il paraît qu'au bout du parc, la bicyclette s'envolait dans les airs. Ça, c'était la première expérience d'aviation.
Un jour, je vois arriver un jeune homme, un enfant, qui me déclare, je suis Antoine de Saint-Exupéry. J'ai dit, monsieur, maman m'autorise à prendre votre thème de l'air. Alors je lui dis, mais c'est bien vrai ce mensonge? Oh, il me dit, oui, monsieur, je vous assure, il était tellement sincère qu'on l'installe dans l'avion, font un tour ou deux ou trois du terrain, et quand il s'est posé, cet enfant me paraissait tellement enthousiasmé qu'il en était transfiguré.
Et vous avez pensé qu'il serait pilote?
Ah oui, oh, ben là, certainement, c'était la naissance d'une vocation.
Il a l'air d'avoir un peu moins de vent ici, en tout cas déjà la mer et moi est plus calme.
Il a réussi à passer son baptême de l'air tout enfant. Il a réussi à
aller
très jeune.
Vous avez le spécialiste.
Ah,
le grand spécialiste, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, je tombe sur la photo du baptême de l'air de Saint-Ex. Avion métallique, 1912. Je me pince. À cette époque, on ne faisait pas d'avion métallique. Pratiquement pas, quoi. Donc je regarde la photo à la loupe et tout. Je dis, bon, ben, c'est fichu, on ne saura jamais. Le constructeur de l'avion s'appelait Wroblewski. De nombreuses années après, coup de téléphone de Didier, j'ai oublié son nom, qui commence à me parler de Wroblewski. Je lui dis, vous avez retrouvé Wroblewski? Oui, il a retrouvé la famille, il a retrouvé le fanion de l'avion, il a retrouvé l'hélice de l'avion, ils ont retrouvé les plans d'une demi-douzaine d'avions qu'a fabriqué Wroblewski dans la région lyonnaise, avec beaucoup de métal.
Et donc, absolument. Effectivement, Antoine de Saint-Exupéry a volé enfant sur cet avion?
Absolument.
Fabien dans Vol de nuit espère vraiment atteindre le ciel inaccessible, les étoiles. Et puis il y a l'imaginaire qui tient tout son rôle aussi, parce que parfois il croit survoler une mer de montagnes, des nuages qui sont des pics rocheux ou des glaciers. C'est toute une promenade comme ça dans les airs et dans l'imaginaire.
Et l'enfance est pour lui la matrice, mais c'est aussi le repère, c'est le pôle, l'ancrage absolu. Il le dit au moment où il est en avion, où il sait qu'il prend des risques énormes, et où il dit j'ai dans la bouche la saveur de Noël, j'ai le goût de Noël dans la bouche, je connais l'odeur des
Alain Vircomblé,
de la paille de la crèche que nous faisions, l'odeur des boules de Noël dans leur boîte et que nous sortons chaque moment de l'Avent.
Son père est mort quand il était âgé de 4 ans. Il a assisté au décès de son frère quasiment.
Oui, il l'a photographié, ce qui est assez rare. Hein. Il a photographié son frère sur le lit de mort. Et moi, je me souviens d'un petit mot qui était dans les archives d'Antoine. Il dit, à partir du moment où mon père est mort, il me devint montagne. J'ai trouvé cette phrase d'abord très poétique, mais en même temps extrêmement énigmatique. On pourrait imaginer que le père est suffisamment puissant pour qu'on ne puisse plus le dépasser. Mais en même temps, Antoine n'a cessé de vouloir franchir les montagnes. Et il y est allé dans la cordillère des Andes. Tu sais combien il a pris de risques dans ces vallées extrêmement escarpées où ses ailes pouvaient cogner dans des corridors étroits, pouvaient cogner contre les parois des montagnes.
Buenos Aires to all planes. Buenos Aires to all planes.
Ship 24 to Buenos Aires. Ship 24 to Buenos Aires.
Je pense que ce sont les difficultés de sa vie de pilote, les difficultés nombreuses qui ont consisté dans l'isolement du Cap Juby, dans ses raids dans le désert pour sauver les camarades, qui l'ont trempé, n'est-ce pas, comme homme. La période la plus dure de sa vie à ce point de vue-là, c'est le Cap Juby, où il a été 2 ans comme chef d'aéroplace, n'ayant comme contact humain que le retour des camarades qui venaient dormir, parce qu'ils étaient vannés, n'est-ce pas, en arrivant de Port-Étienne. Alors là, ça a été en somme le silence absolu. Pendant 2 ans, les camarades qui l'ont précédé sont devenus fous et ont dû être remplacés.
C'est un homme qui est un frémissement absolu et d'une hypersensibilité. Et en même temps, qui est doté, doué d'une de grandes frustrations, de grandes névroses aussi, et de grandes dépressions intérieures. Alors, cet homme, il y avait énormément de femmes qui étaient autour de lui. Mais en même temps, cette relation qu'il a avec elle, au pluriel, c'est toujours une relation qui est très difficile et très compliquée, parce que la mer est toujours là, c'est l'ombre portée de la mer qui apparaît dans toute sa correspondance avec les femmes, que ce soit avec Louise de Villemorin et Sylvia Hamilton, et toutes les femmes qu'il a connues, et même la mère maîtresse, si j'ose dire, parce qu'elle était beaucoup plus autoritaire que lui, elle avait un physique très autoritaire, c'est-à-dire Nelly de Vogüé ou Hélène de Vogüé, qui a été sa maîtresse pendant plusieurs années, jusqu'à la mort.
Il a beaucoup plus d'amitié féminine que masculine.
Thierry Deuet.
Les femmes sont pour lui une sorte de référence dans la mesure où il a besoin de leur avis, de leur approbation. Il est souvent à la frontière entre amour et amitié, mais il est toujours confiant vis-à-vis de ses femmes. Il a été élevé avec 3 sœurs, 14 cousines et un cousin germain. Son père est mort alors qu'il avait 4 ans. Donc il y a une relation très, très féminine dans le rapport que Saint-Exupéry a au monde aussi. Ce qu'on ne voit absolument pas, évidemment, quand on parle du pilote viril, mâle et un peu macho dans l'image qu'on en a donnée depuis les Mémoires de la Rose.
Ship 603 calling Buenos Aires. Ship 603 calling Buenos Aires.
D'abord, Antoine, avant l'exil new-yorkais, a vécu une vie de pilote. Hein. C'est l'aéropostal, bien sûr, cette aventure extraordinaire qui consistait à relier les continents pour porter le courrier, avec tous les risques que ça pouvait comporter, évidemment des risques de mort. Je crois que Antoine a compris, je crois, le sens de ce qu'était pour lui l'écriture. C'est-à-dire que la vie existentielle, je veux dire, le quotidien, permet de délimiter l'écriture, dit-il. C'est-à-dire que écrire, ce n'est pas écrire pour écrire. Ce n'est pas seulement écrire des belles choses pour des belles choses. Ce n'est pas faire du style. C'est écrire, c'est évidemment être d'abord pénétré, pétri, nourri de cette vie que l'on mène. Donc la vie et l'œuvre sont extrêmement liées chez Antoine. Et on ne peut pas dire que ce soit un écrivain de salon. Non, c'est un écrivain qui est du terrain, au contraire. Ce qui donne d'ailleurs à cette œuvre sa force, ce qui donne à cette œuvre cette puissance à la fois d'énergie vitale qu'il arrive à transmettre à son lecteur, mais aussi de témoignages d'une vie qui est à la fois héroïque, mais aussi en même temps qu'il a voulu banale.
Ayant piloté pendant 8 années sur les lignes aériennes de l'aéropostale, rattachée plus tard à Air France, je n'ai pas essayé d'écrire cette fois-ci, comme je l'avais fait pour Vol de nuit, un roman empruntant pour cadre le cadre de l'aviation marchande. J'ai souhaité d'apporter autre chose qu'une fiction ou qu'une simple collection de souvenirs. Mais à travers ces souvenirs, à travers les images, les anecdotes, les joies et les tourments d'un métier fertile entre tous, j'ai essayé de dégager les témoignages qu'une longue pratique professionnelle accumule peu à peu, non seulement sur le pilote, mais sur l'homme lui-même.
Écrire et voler, Jocelyne Sauvard, c'est aussi, peut-être plus que la nuit, un point commun de ces deux activités, c'est la solitude.
Complète, la solitude complète et... Point commun aussi, c'est le travail avec le corps. Parce que dans Pilote de guerre, on le voit très bien aux commandes, à son volant, comme il dit, et on le voit par des températures infernales, moins 50, etc., ses pieds qui gèlent. On voit tout l'effort du corps. Et on voit aussi dans Vol de nuit l'effort du corps et de la tête, et parce que, évidemment, il appelle sans arrêt les stations pour savoir s'il peut se poser, Fabien, son héros. Et Saint-Exupéry a connu ça. Et donc, ça me fait penser au travail d'écriture avec le corps. Parce que quand on écrit, on lutte beaucoup avec son corps. C'est la main qui écrit. C'est la main qui écrit plus que la tête. Et on suit notre main. Il était à la fois aux prises avec l'outil avion en étant aux commandes et l'outil écriture, stylo à son époque ou machine à écrire quand il était en bas, dans la base, en train d'écrire. Et quand il parle de sa carlingue et de l'outil, comme il dit, il en fait aussi un personnage, il en fait un homme. On sent que l'avion est un homme et que cet homme est toujours livré à cette femme qui serait la nuit ou l'éternité.
La radiodiffusion de la nation française présente Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. Prise de son, Remouy. Script girl, Agnès Tanguy. Réalisation, Albert Olivier.
Les collines sous l'avion creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre l'aurore, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse.
Saint-Julien est en vue. Nous atterrirons dans 10 minutes.
Le radio-navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne.
Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à Saint-Julien ?
Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium, et toutes les escales devant eux leur signalaient « ciel pur, vent nul ». Il répondit
« Continuerons ».
Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit serait belle, et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre, prête à pourrir.
Fox Alpha Alpha Delta.
Fox Alpha Delta.
Oui, vous êtes actuellement à 1300 pieds pour survoler le parc des Calanques. C'est 3500 pieds, soit c'est l'itinéraire à 1650.
Je suis à 1300 pieds, mais au large des Calanques. Il faut que je m'éloigne plus.
Le parc des Calanques.
Non, je suis au large des Calanques.
Oui, oui, correct, mais vous êtes dans la zone de du parc des Calanques.
Oui, en fait, il m'a dit que j'étais à 1300 alors que je devais être à 1600. En fait, c'est ça le problème, je suis trop bas.
Ah oui.
Là, on commence à voir le pan coupé de la Ciotat, là. Et donc, les deux Lightning, ils étaient tombés juste un peu avant, dans l'eau. Donc, on a remonté une aile et puis bon, on n'a rien retrouvé. Pas trouvé de plaque pour le Lockheed dessus. Et dans ceux qui ont plongé, il y avait Castellano, il me semble. Hein.
Et en fait, la toute première fois où on a retrouvé des traces de la vraie épave, c'était en 82, c'est ça? C'est ce qui est très ancien.
Oui, c'est très ancien, oui. Mais en fait, c'est Van Rel qui, dans ses nombreuses plongées, est tombé sur des morceaux, quoi. Mais comme il n'était pas du tout expert en avion, et... D'ailleurs, dans les premiers contacts qu'il a pris avec Castellano, je crois, il a dit « j'ai un moteur où il y a marqué dessus DB ». Et c'est quand il a vu tout d'un coup de l'eau se commencer à tournicoter suite à la gourmette qu'il s'est dit, tiens, est-ce que les éléments que je connais depuis longtemps n'y appartiendraient pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui l'a contacté en premier, en fait. C'est son copain, un historien américain, Curtis, qui lui a dit, oui, effectivement, tes morceaux, c'est des morceaux de Lightning. Hein. C'est seulement après qu'il y a eu les contacts avec Castellano et l'équipe, quoi.
La gourmette, elle a été retrouvée en 98 par un pêcheur, par hasard.
Alors en fait, c'est un bateau de pêche et c'est le second, là, Habib Benamor, qui... Alors en fait, le pêcheur travaillait déjà avec Castellano depuis quelques temps et sur d'autres recherches. Hein, et Castellano lui avait dit, quand tu trouves des concrétions, tu les jettes surtout pas à la mer, parce que les pêcheurs... Fox Alpha Delta, je contacte Provence 12435, au revoir. Et alors en fait, le pêcheur travaillait déjà avec Castellano depuis quelques temps et sur d'autres recherches, hein, et Castellano lui avait dit, quand tu trouves des concrétions, tu les jettes surtout pas à la mer. Et là en fait, le second, Benamor, il a même pas eu à trop se poser de questions, puisqu'il y avait un truc qui dépassait, qui brillait, donc il amène tout de suite au patron, Jean-Claude Bianco. Donc il voit, il casse le machin, et il voit Antoine qui apparaît, quoi, hein, donc... la mettre au coffre de Delose et puis donc Delose y retourne rapidement pour trouver l'avion, quoi. Et en fait, on n'a jamais rien retrouvé de plus, hein, à part des caméras ou des choses comme ça.
Mais déjà là, c'est miraculeux de retrouver cette gourmette, hein.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment une histoire de la Marseillaise au carré, ça, hein.
Ah oui.
C'est mieux que la sardine qui bouche le port, hein.
Non, mais c'est...
Parce que franchement, un pêcheur marseillais qui trouve la gourmette de Saint-Aix au large de Marseille, c'est en partie pour ça qu'il y a plein de gens qui n'y ont pas cru, hein.
Oui, parce que vous dites que c'est une des trois disparitions les plus mystérieuses de l'histoire de l'aviation.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a une chose extraordinaire qu'Antoine a vécue et qu'on ne dit peut-être pas suffisamment et qui est très belle, c'est dans Terre des Hommes, quand il raconte ce qu'est l'avion et ce qu'est l'expérience de l'avion. Et alors il est tout seul, il faut imaginer Antoine tout seul au-dessus des mers et des terres, au-dessus de la Terre des Hommes, donc. Et il voit en bas, quand le ciel est clair, il voit quelques foyers allumés, quelques lumières. Et il y a cette impression de couver et de protéger l'humanité. Et en même temps, une idée presque archangélique. C'est-à-dire que l'avion devient des ailes d'ange qui couvre la Terre et qui la protège. Il dit qu'il a l'impression de protéger l'humanité. Et donc il y a, au fur et à mesure de l'expérience du pilote qu'il vivra, une expérience humaine de plus en plus grande.
Et je méditais sur ma condition, perdu dans le désert et menacé, nu entre le sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par trop de silence. car je savais que j'userais à les rejoindre des jours, des semaines, des mois, si nul avion ne me retrouvait, si les morts demain ne me massacraient pas. Ici, je ne possédais plus rien au monde, je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Et cependant, je me découvris plein de songes. Ils me vinrent sans bruit comme des eaux de source, et je ne compris pas tout d'abord la douceur qui m'envahissait. Il n'y eut point de voix ni d'image, mais le sentiment d'une présence, d'une amitié très proche et déjà à demi devinée. Puis je compris et m'abandonnai, les yeux fermés, aux enchantements de ma mémoire. Il était quelque part un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls et une vieille maison que j'aimais. Peu importait qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma chair, ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe. Il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa présence.
Il a une vie un peu chaotique, hein, c'est-à-dire qu'il est, il voudrait pas rentrer à Naval, pas finir ses études à Naval. Il rentre aux Beaux-Arts comme auditeur libre. Il dessine, il crayonne. C'est un peu le début du Petit Prince. Il a toujours dessiné des petits objets, des petits papiers, des choses comme ça.
Des inventions.
Et puis voilà, il est des inventions bien sûr. Et il est engagé donc en 1927 à l'Aéropostale. Il devient chef d'escale à Cap Juby et il va être nommé en 1929 directeur de l'Aéropostale Argentina. Et ça, c'est une chose très importante parce que là, il va rencontrer la femme de sa vie, hein, c'est-à-dire Consuelo de Saint-Exupéry. Il obtient, au moment où, d'ailleurs, où Consuelo se marie avec lui, il était en train d'écrire avec une préface d'André Gide, Vol de nuit, et il obtient le prix Femina avec cet ouvrage qui est très important et qui certainement va lancer sa carrière beaucoup plus que Courrier Sud. Et là, c'est le départ d'une carrière littéraire. Mais il tient toujours à être un pilote d'essai et il continue son travail. Il quitte l'Aéropostale et la TECOR et il a un contrat avec Air France. Alors, c'est une grande époque aussi parce que c'est l'époque où il devient journaliste et où il invente un nouveau journalisme, un peu comme Camus et comme Marguerite Duras plus tard, politique, mais en même temps très humain et en même temps très littéraire. Et il va couvrir, comme on dit, la guerre d'Espagne. Il va couvrir la guerre. C'est là qu'il va avoir cette fameuse dans le journal L'Intransigeant, ici on tue comme on déboise. Et puis il écrit Terre des Hommes en 1939, nous sommes donc à la veille de la guerre, et là il obtient le prix du meilleur livre en Amérique avec le titre Wind, Sound and Stars, et il part donc en Amérique où il va recevoir son prix, nous sommes en 1940, et il s'installe à New York.
Je l'ai connu très intimement, puisque nous étions des Français presque en exil, malheureux du sort de notre pays, assez d'accord sur ce qu'il convenait de faire, c'est-à-dire recommencer à se battre dès qu'on le pourrait. Et
André Mauroy.
Il venait nous voir très souvent. Et il était alors ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un enchanteur, un magicien. La conversation de Saint-Exupéry était quelque chose qu'on ne peut pas se représenter quand on ne l'a pas entendu. C'était une invention perpétuelle d'idées, de philosophie, de souvenirs. Et puis en même temps, c'était un homme très joueur, qui aimait la fantaisie, qui aimait faire des tours de cartes, qui aimait étonner, qui aimait amuser. Et ça faisait de lui, pour nous, un camarade extrêmement précieux.
Prenez un jeu de cartes. Mêlez-le. Tirez une carte, sans la regarder. Mettez-la sur le genou. Comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, regardez-la. C'est le 7 de carreau. Maintenant, si j'ai raté, exprès, il ne faut pas m'en vouloir, parce que je suis un peu loin.
C'est pendant l'été 42 qu'Antoine est parti à Long Island, qui est une station balnéaire. Or, il a demandé à sa femme de lui trouver une maison au bord de la mer. Et Elle est partie, elle raconte très bien cela dans les Mémoires de la Rose. Elle a dit, ben, je suis allée à la gare de New York et puis j'ai vu qu'il y avait un train, un premier train qui partait pour Northport. Et bien, le Nord, j'ai pensé que le Nord c'était le froid, ben, je vais là-bas. Et elle arrive à Long Island. Et avant qu'elle n'arrive à Long Island, de la fenêtre du train, elle voit une maison qui est très belle, une maison blanche, qui est en bois, un peu dans un style de la Caroline du Sud, un peu. Et elle dit, oh, ça serait formidable si on pouvait trouver une maison comme ça à louer. Alors elle descend à Long Island, et puis elle reprend un taxi, et elle demande au taxi de refaire le chemin inverse jusqu'à la maison en question. Elle tape à la porte, un monsieur arrive et lui dit, bien, oui, que voulez-vous? Elle dit, bien, écoutez, voilà, je suis la comtesse Antoine de Saint-Exupéry. Mon mari cherche une maison à louer. Est-ce que par hasard, vous ne la loueriez pas? Et extraordinaire, là encore, romanesque. Le monsieur en question, le propriétaire en question, lui dit, bien, écoutez, c'est extraordinaire parce que nous sommes des grands admirateurs de Vol de Nuit, des grands admirateurs de Terre des Hommes, et ma femme ne se parfume qu'au parfum de Guerlain Vol de Nuit, et si vous voulez, non seulement je ne vous la loue pas, mais je vous la prête. Et donc, Antoine et Consuelo s'installent pour l'été à Long Island, et c'est là où il va écrire Le Petit Prince.
Et il m'invita à venir là, passer une quinzaine de jours, c'est presque la campagne, ça devait être en repos après New York, où j'avais fait beaucoup de cours dans les universités. Et nous avons mené là la vie la plus étrange. Il aimait travailler la nuit. Alors le soir, on jouait aux cartes, aux échecs, ou racontait des histoires, jusqu'à minuit. À minuit, Saint-Ex nous disait « Allez vous coucher ». Alors, Consuelo montait se coucher, moi j'allais dans ma chambre, on dormait une heure, tout d'un coup on entendait des cris dans l'escalier, « Consuelo, Consuelo !» C'était Saint-Exupéry. Alors Consuelo passait hâtivement une robe de chambre et descendait, moi je descendais aussi, et nous le retrouvions en bas, il disait « Voilà, je travaille depuis une heure, j'en ai assez, je voudrais manger quelque chose, fais-moi des œufs brouillés. » Consuelo allait faire des œufs brouillés, revenait les apporter, Saint-Ex reparlait de nouveau pendant une demi-heure, ou bien allait se promener dans le jardin, et puis il disait maintenant, allez vous coucher. On allait se coucher, ça durait une heure, au bout d'une heure, on entendait de nouveau, Consuelo! Et c'était Saint-Ex qui disait, maintenant j'ai de nouveau travaillé une heure ou deux heures, j'en ai assez, je voudrais faire une partie d'échecs, il faut que mon roi ou toi jouiez avec moi. Puis ça recommence. Et c'était ça, Saint-Exupéry, c'était à la fois un héros, c'est incontestable, j'ai jamais vu un homme aussi courageux. C'était, comme je vous dis tout à l'heure, un enchanteur, et c'était un profond philosophe. Et quand il écrivait Le Petit Prince, il y avait là un mélange d'une fantaisie qui lui venait de Consuelo, car elle avait beaucoup de fantaisie, elle était très capable d'inventer un conte de fées, et puis de ce que lui voulait, c'est-à-dire donner à ce conte de fées une profondeur, exprimer des idées à travers un mythe.
Consuelo était un personnage tout à fait étonnant, mais qui se mettait en scène. Et donc, elle a tendance à modifier les différentes versions de ce qui lui est arrivé avec Saint-Exupéry, puisqu'ils ont dû passer en tout et pour tout 18 mois à 2 ans ensemble sur 13 ans de mariage.
Comment Le Petit Prince a-t-il été écrit ?
Le Petit Prince était un livre qu'il tenait à écrire sur sa fleur. Sa fleur, c'était moi. C'était lui, le petit prince. Et il avait une fleur à soigner, une fleur, je suis espagnol, une fleur qui craignait les courants d'air, comme disait cette rose, tout c'est beaucoup, et me tourmentait. Alors, je me suis enfuie avec des oiseaux émigrataires. C'était quand il partait pour ce grand voyage, et que je restais assez angoissée. Et que je l'ai menacé d'aller me réfugier près de mes volcans, près de mes arbres qui grandissent toujours. D'ailleurs, le baobab est un arbre del Salvador.
Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours, et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée.
Vous soulignez, David Le Breton, cette manière des différents habitants des planètes, le roi, le vaniteux, l'ivrogne, le businessman, l'allumeur de réverbère. Vous vous montrez comment ils ont une façon de rencontrer le petit prince de manière ultra subjective, en ne prenant de lui que la façon qu'ils ont de le voir pour eux-mêmes uniquement.
Le voyage du petit prince, une fois qu'il quitte son astéroïde, parce que la relation avec la rose est devenue trop tendue, c'est véritablement un voyage initiatique qui est constitué par des rencontres, mais on a vraiment le sentiment en le lisant que la rencontre, il n'y a vraiment que le petit prince qui l'a fait, que les gens qui l'accueillent ne rencontrent pas le petit prince, ils rencontrent un individu qu'ils ne voient que par rapport à leurs attentes à eux. Quand le petit prince arrive sur la planète du roi, il n'y est pas accueilli en tant que petit prince, il est immédiatement réduit à son statut de potentiel sujet pour ce roi-là. Quand il arrive sur la planète du businessman, il n'est réduit à rien, puisqu'au fond, n'ayant pas de valeur marchande, il ne peut correspondre à rien pour ce businessman. Et donc il y a toujours cette leçon de se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'accueille pas les autres en fonction de ce qu'on a déjà un petit peu préparé pour eux, de ce qu'on attend d'eux? Le petit prince est peut-être plus que les autres capable de les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de dénoncer leur imposture, à une petite exception près, l'un de ces personnages qui s'en sort peut-être un petit peu mieux, c'est l'allumeur de réverbère, puisque même s'il y a le côté absurde de cette consigne « j'allume mon réverbère, j'éteins mon réverbère, j'allume mon réverbère, j'éteins mon réverbère », il est quand même attaché à une cause, à un acte auquel il se tient, et puis il produit, ce faisant, une sorte de coucher de soleil permanent où il fabrique des étoiles dans le ciel.
Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère?
C'est la consigne, bonjour.
Qu'est-ce que la consigne?
C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir.
Et il le ralluma.
Mais pourquoi viens-tu de le rallumer?
C'est la consigne.
Je ne comprends pas.
Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour.
Et il éteignit son réverbère.
Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste de la journée pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir.
Et depuis cette époque, la consigne a changé?
La consigne n'a pas changé, c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé.
Alors?
Alors, maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute.
Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute.
C'est pas drôle du tout, ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble.
Un mois?
Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir.
Et il ralluma son réverbère.
Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras.
Ah, je veux toujours.
Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras.
Oh, ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir.
Ce n'est pas de chance.
Ce n'est pas de chance. Bonjour.
Et il éteignit son réverbère.
Celui-là serait méprisé par tous les autres. Par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont j'ai pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux.
Oui, de façon générale, il me semble qu'on peut gagner en signification si on aborde le conte en considérant que chacun des territoires parcourus par le petit prince représente en fait un certain état d'esprit. C'est plutôt une sorte de géographie mentale. Et donc, l'astéroïde B612 qui se retrouve ainsi menacé d'implosion du fait des baobabs qui y poussent, ça peut être lu comme une métaphore de notre esprit accaparé par un certain nombre de soucis qui, comme les pousses de baobabs, ont d'abord une allure modeste mais peuvent assez rapidement grandir et devenir envahissants jusqu'au point de nous faire craquer complètement, de vraiment menacer notre équilibre. Et du coup, ça amène à cette question qu'on oublie un peu en cours de route, alors qu'elle devrait être centrale. Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton, là-dedans? Pourquoi il y a un moment où le petit prince insiste tellement pour qu'on lui dessine un mouton? Et je proposais effectivement de le lire comme une métaphore de la philosophie, c'est-à-dire de cet outil qui est à notre disposition pour savoir faire la différence entre les choses importantes et les choses futiles, pour savoir chasser les soucis qui ne méritent pas qu'on s'y attarde, de la même façon que le mouton va avoir pour fonction sur l'astéroïde d'enlever ses pousses de baobab avant qu'elles ne deviennent trop importantes.
Ma mère, adieu vous que j'aimais. Ça n'est point ma faute si le corps humain ne peut résister 3 jours sans boire. Je ne me croyais pas prisonnier ainsi des fontaines. Je ne soupçonnais pas une aussi courte autonomie. On croit que l'homme peut s'en aller droit devant soi. On croit que l'homme est libre. On ne voit pas la corde qui le rattache au puits, qui le rattache comme un cordon ombilical au ventre de la terre. S'il fait un pas de plus, il meurt. À part votre souffrance, je ne regrette rien. Tout compte fait, j'ai eu la meilleure part. Si je rentrais, je recommencerais. J'ai besoin de vivre. Dans les villes, il n'y a plus de vie humaine. Il ne s'agit point ici d'aviation. L'avion, ça n'est pas une fin, c'est un moyen. Ça n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ça n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme et on connaît les soucis d'homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l'aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l'escale comme une terre promise et l'on cherche sa vérité dans les étoiles. Je ne me plaindrai pas. Depuis 3 jours, j'ai marché, j'ai eu soif, j'ai suivi les pistes dans le sable, j'ai fait de la rosée mon espérance. J'ai cherché à joindre mon espèce dont j'avais oublié où elle logeait sur la terre. Et ce sont là des soucis de vivants.
Go ahead.
High wind, cyclone over Topongato. Down current just dropped me 2,000 feet. Clouds caught me in a canyon. Going around storm to the south. Maybe delayed. 24 off.
Jean Renoir.
Nous voulions faire un film ensemble avec Saint-Ex. Nous voulions, je vous l'ai dit, faire un film sur son histoire de l'Amérique du Sud. Oui. Et aussi sur la partie où il a été perdu dans le désert. Alors nous sommes allés voir mon agent. Et nous sommes entrés dans un très beau bureau. Et alors, l'agent, n'est-ce pas, l'a fait asseoir très poliment et lui a dit « Alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous êtes acteur? Vous voulez un rôle ?» Il a dit « Non, je suis pilote. » Et l'agent n'a pas très bien compris. Il a dit « Pilote, mais je ne m'occupe pas d'aviation. Vous voudriez une place dans une ligne commerciale ?» Et alors, Saint-Ex a dit, pas pour le moment, parce que j'ai un livre à écrire, n'est-ce pas? Ah, vous écrivez aussi? Oui, enfin, on a pu expliquer à l'agent que nous lui demandions de nous aider à trouver un producteur pour notre projet. Et l'agent a dit que tout ça n'était pas extrêmement commercial. Il a dit que ça manquait de suspense, que ce n'était pas dramatique, et qu'il nous souhaitait de réussir, mais qu'il nous conseillait d'aller dans un autre pays pour produire ce film, peut-être au Mexique, où ils ont des idées bizarres. Et Saint-Exupéry, à la fin, ne disait plus un mot. Et il regardait ce monsieur qui parlait, qui voulait être aimable, et qui était aimable d'ailleurs. Et en sortant de l'ascenseur, il m'a dit « C'est un affreux !»
Pourquoi il est parti à New York au début? Alors, parce que ça lui a été beaucoup reproché, finalement. Oui. Il y a des gens qui l'ont accusé de fuir la guerre à ce moment-là.
Oui, on le lui a reproché, mais en même temps, ceux-là même qui le lui ont reproché étaient déjà partis eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire des gens comme Jacques Maritain, Raïssa Maritain et surtout Georges Bataille étaient partis aussi à New York et vivaient une vie de résistant auprès de Marlène Dietrich, de Greta Garbo, et de Peggy Guggenheim et de Max Ernst. Et tout le monde s'amusait et buvait du champagne. Il faut bien voir qu'Antoine de Saint-Exupéry, et ça a beaucoup joué, était à l'époque un des écrivains qui avait le plus de droits d'auteur et qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, cet argent, il n'en faisait pas marqua beaucoup parce qu'il était, il faisait partie de ces aristocrates qui vivent, comme je l'ai dit, bohème, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi bien louer une suite au Lutetia, mais aussi vivre dans une chambre de bonne. Mais il flambait son argent, il dépensait tout son argent, il le dépensait pour les petites poulettes, comme il disait, c'est-à-dire souvent des entraîneuses de cabaret. Et il allait souvent dans les cabarets sans Consuelo, bien sûr, et puis il offrait des vêtements, des bijoux, des robes à ces femmes-là. Et puis, il dépensait beaucoup pour ses amis. Il faisait table ouverte dans les brasseries de Manhattan. Et ça a beaucoup joué sur le plan, de la jalousie, hein, de la part de d'hommes comme Bataille ou autres, qui évidemment ne recevaient guère de droits d'auteur avec leurs propres ouvrages, qui étaient plus compliqués, plus difficiles, et moins publics que ce que faisait Antoine de Saint-Exupéry.
Ce que vous nous expliquez, Alain Vire-Condelet, c'est qu'à la fois il y a ce phénomène de jalousie, puisque non seulement il gagne beaucoup d'argent avec ses écrits, mais il y a aussi des adaptations au cinéma, à Hollywood, bien etc. Sûr, oui. Et puis en même temps, il est loin des zones de combat, et le gouvernement de Vichy le nomme à un poste sans lui demander son avis.
Oui, effectivement. Bon, dès que le gouvernement, l'État français s'est installé, ils ont essayé de faire en sorte que des intellectuels, que des artistes le rejoignent. Et il y a eu un écho dans la presse qui a été lancé, mais de façon extrêmement habile et machiavélique, hein, dans lequel cet écho, il était nommé, hein, au régime de Vichy, dans un poste qui était quand même un poste culturel. Et que des hommes comme Giraudoux, par exemple, ont plus ou moins accepté. Plus tard. C'est vrai qu'il y avait une certaine ambiguïté du côté des intellectuels français. Pour les intellectuels, la pensée de Saint-Exupéry était une pensée qui finalement rejoignait quelque part la pensée pétainiste. C'est-à-dire, pensée qui avait été incarnée par la fameuse trilogie qui remplaçait liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie. Or, quand on regarde l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, il dit, mais les pétainistes se sont arrogés ces trois noms, travail, famille, patrie, mais en même temps, pour moi, ce sont des noms qui sont extrêmement nobles. Et je ne vois pas pourquoi je les renierais au nom du fait que les pétainistes l'ont choisi. Pour moi, le travail est extrêmement important, c'est ce qui forge l'homme, il le dit dans Citadelle. Pour moi, la famille, c'est quelque chose de très important parce que c'est l'union la plus absolue et la plus idéale. Et la patrie, c'est quand même le plus important parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas voir grandir un arbre, croître un arbre, si on coupe ses racines. Et donc, pour lui, travail, famille, patrie, c'est une trilogie qu'il respecte. Et ça a été insupportable aux yeux d'Aragon, aux yeux de tous les intellectuels de l'époque et particulièrement de Georges Bataille, qui ont mené une campagne de presse absolument épouvantable qui a été dénoncée par Saint-Exupéry lui-même. Et puis de Gaulle, vous savez qu'il a, dans le fameux discours aux intellectuels qu'il a prononcé, il a cité tous les grands écrivains français, il en a oublié trois. Saint-Exupéry, André Mauroy, Saint-John Perse. Après, il a écrit une lettre merveilleuse, après la mort d'Antoine, mais une fois que Antoine était mort, on peut effectivement écrire des hommages. Ça ne mange pas de pain, comme on dit.
Il est célébré au Panthéon, il figure sur nos billets de banque. Et vous avez notamment signé un article intitulé « L'angoisse de Babel » où vous soulignez à quel point précisément la guerre, une certaine solitude affective et ce désarroi intellectuel ont finalement entraîné une sorte de dépression, et une dépression qui a eu un impact sur son œuvre.
Ah ben, la dépression d'Antoine de Saint-Exupéry est assez inouïe. Ça a été identique d'ailleurs à celle de Albert Camus. Hein.
Alors qu'en même temps, c'était un homme jovial qui aimait faire la fête et avec ses amis, qui a encore fait la fête la veille de sa mort. Hein.
Oui. D'ailleurs, il y a une photo d'Antoine qui semble danser une sardane avec les bras en l'air, comme cela. Et il est effectivement, c'est une photo qui a été prise dans le Metz, certainement en fin 43, début 44, c'est-à-dire donc très peu de temps avant sa mort, et il danse au milieu de ses camarades. Et c'est une photo qui a été découpée par Consuelo, qui a été détourée et que l'on a retrouvée dans son portefeuille.
Oui,
Consuelo ne se séparait pas de cette photo,
mais
joyeuse.
Elle est joyeuse, mais il fronce les sourcils et il a le visage un peu fermé.
Oui, c'est-à-dire que Antoine a subi une dépression qui a été d'une rare puissance parce qu'il a été malmené par ceux-là même qu'il croyait être ses pères et ses frères en littérature, et donc ça l'a beaucoup touché, et il a à partir de ce moment-là complètement été désespéré. Il le dit, il y a un mot qui revient sans arrêt dans sa correspondance: la solitude intérieure, la solitude spirituelle. Et il vit cela de façon absolument tragique, et pour lui, la guerre, aller au front, se battre dans les airs, c'est en même temps accepter que, comme il le dit, Dieu me fasse un croc en jambe, c'est accepter la mitraille, se laver, il le dit, je veux me jeter dans la mitraille pour me laver de leurs injures.
Il faut quand même savoir que le Petit Prince est lu dans le monde entier. Hein. C'est le livre le plus lu dans le monde après la Bible. Hein.
La mer est pleine de petits moutons, c'est étonnant.
Oui, ben c'est qu'il y a du vent. Ça va être la Ciotat qu'on voit là, tout au fond. À l'époque, on n'avait toujours pas le fameux numéro. C'est pour ça que lorsqu'il y a ces nouveaux morceaux qui sont apparus, ça pouvait être normalement que l'avion de Saint-Ex. Mais tant qu'on n'avait pas le numéro, personne ne voulait, aucune autorité ne voulait se prononcer. Hein.
Vous étiez combien dans l'équipe d'identification ?
Une bonne dizaine. Hein.
Ah oui, quand même.
Ah ouais.
Ça a duré combien d'années au total, cette identification ?
De nombreuses années.
Ah oui,
histoire très très longue. Hein.
Eh oui.
Avec toutes les controverses, les autorisations officielles, etc. Et donc, avant identification, Cassiano a monté une manip avec Delose.
Castellano, c'était le plongeur qui a identifié les barres.
Castellano, c'est le chef de projet de l'équipe d'identification, hein, donc le canois. Plongeur, historien, et donc, avant identification, Castellano a monté une manip avec Delose pour aller repêcher. On savait qu'il y avait deux Lightning américains, des chasseurs, hein, des P-38, qui avaient été abattus à une minute d'intervalle au large de la Ciotat. Et donc, on a été en repêcher un pour essayer de voir où étaient les numéros d'identification Lockheed.
Parce qu'on ne connaissait pas assez les Lightning pour savoir où étaient les numéros.
Enfin, pour voir sur des modèles Lightning où étaient les plaques d'identification, sur du vrai matériel, pas que la documentation.
Voilà, oui, Lightning, c'est le modèle avec lequel s'est écrasé Saint-Ex.
Oui, sauf que Saint-Ex, lui, ne volait pas sur le chasseur. Hein, il volait sur la version photo, le F5. Hein. En fait, il a volé sur F4, F5. Et à l'époque où il y avait toutes ces controverses, nous on était extrêmement pointilleux sur le sujet, parce que dès que quelqu'un parlait du P-38 de Saint-Ex, nous on faisait demi-tour, quoi. On avait affaire à un mec qui connaissait rien. Hein. Il fallait pas qu'on retrouve un avion de chasse, il fallait pas qu'on retrouve des canons. Sinon c'était un P-38. Nous, ce qu'on cherchait, c'est des caméras, donc des F4 ou F5. En l'occurrence, l'avion en question, c'était un F5B, avion photo. Donc tout le nez de l'avion, au lieu d'avoir des canons, il y avait des caméras.
C'était les fameux observateurs.
Oui, bah la reconnaissance. Hein.
Reconnaissance.
Reconnaissance stratégique. La spécificité de la reconnaissance était de voler à 10 000 mètres d'altitude, hein, donc sous oxygène. Hein. Alors justement, moi, à un moment, j'ai pensé que l'une des explications de sa disparition, c'était peut-être une panne d'oxygène. Hein. Mais en fait, visiblement, c'est pas ça.
C'est vrai qu'à l'époque, il portait des combinaisons chauffantes pour pouvoir monter en altitude.
Ah oui, à 10 000 mètres. Hein.
Oui.
Alors c'était la force du Lightning, c'est que grâce à ses moteurs à compresseur, il pouvait monter très haut.
Et justement, pour enfiler ses combinaisons chauffantes, comme Saint-Ex avait été blessé, pour lui c'était assez douloureux parce qu'il souffrait quand même.
En fait, il fallait l'aider, il pouvait pas s'équiper tout seul et il pouvait pas monter tout seul dans l'avion.
On disait qu'il était trop vieux, il avait atteint l'âge limite à 44 ans pour piloter ce type d'appareil.
Ouais.
Et le Lightning, alors il faisait quelle taille pour qu'on se représente ? Il y avait combien de places à l'intérieur ?
Oh, c'était un monoplace, hein.
D'accord.
Mais à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de place, hein, donc ils pouvaient souvent emmener avec eux un mécano, etc. Enfin,
ah oui.
Et de la place.
Et Saint-Ex a fait beaucoup de métiers, il a été mécano lui-même pendant un petit moment.
Oui, et puis c'était aussi un inventeur, hein. Il a déposé plusieurs brevets sur la navigation. Et...
Ah oui, il avait vraiment le goût de l'invention, notamment des systèmes d'atterrissage de nuit.
Oui, et de navigation aussi.
Et il paraît qu'il aimait bien griffonner ses inventions sur des coins de table, sur des nappes
dans
les
restaurants. Oui, tout à fait, oui.
Le courrier d'Asuncion marche bien, nous l'aurons vers 2 heures. Nous prévoyons par contre un retard important du courrier de Patagonie qui paraît en difficulté.
Bien, monsieur Rivière.
Il est possible que nous ne l'attendions pas pour faire décoller l'avion d'Europe, n'est-ce pas? Dès l'arrivée d'Asuncion, vous nous demanderez des instructions. Tenez-vous prêt.
Entendu.
Ah, attendez. Bahia Blanca ne nous communique rien par TSF?
Non.
Appelez l'escale par téléphone.
C'est fait.
Mais pourquoi nous passe-t-il rien?
Ils n'entendent pas le courrier.
Ils se taient?
Ils ne savent pas, trop d'orage.
Mais Trélève entend-il?
Nous n'entendons pas Trélève.
Alors téléphonez,
mon. Nous avons essayé, la ligne est coupée. Madame?
Je suis madame Fabien. Mon mari a-t-il atterri?
Non.
Il a du retard?
Oui. Oui, du retard.
Ah.
David Le Breton, vous évoquez le texte Citadelle, qui est l'œuvre que Saint-Exupéry a écrit un petit peu toute sa vie et qui est parue à titre posthume, donc qui n'est pas forcément aboutie, où il s'agit d'une sorte d'utopie, mais une utopie assez complexe, puisque même les bandits ont un peu leur place dans ce monde.
Oui, on a tous en tête, ou assez souvent en tête en tout cas, les étapes essentielles du Petit Prince. On oublie que c'est pas un élément complètement isolé dans l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est préparé par d'autres œuvres, c'est prolongé. On trouve des échos du Petit Prince dans Terre des Hommes, par exemple, et surtout il y a cette version de Citadelle qui est un peu la grande sœur du Petit Prince, une version plus étoffée, moins accessible aussi, parce que elle est dans cette langue très poétique. On a des personnages qui sont extrêmement contrastés, notamment le personnage du Caïd, qui est le narrateur dans Citadelle, dont on suit les pensées, et qui peut se présenter aussi bien sous les traits d'un homme très sage, d'une spiritualité extraordinaire, que comme un chef politique et militaire, parfois cruel, qui n'hésite pas, par exemple, à commander la mise à mort d'un de ses soldats qui était chargé de veiller sur la cité et qui s'est endormi pendant son tour de garde. Donc c'est effectivement quelque chose dont on sent que c'est tout à fait enraciné dans le parcours d'Antoine de Saint-Exupéry en tant qu'aviateur, en tant que pilote de guerre, avec ses rencontres de gens qui avaient cette densité, cette complexité-là. Et c'est tout à fait précieux, je trouve, de pouvoir rencontrer dans ce genre d'œuvre des exemples de ce qui est une spiritualité qui ne se retrouve pas à l'intérieur forcément d'une religion.
La Citadelle est une œuvre qui n'est pas achevée, comme l'on sait, un peu à la manière de Camus avec le premier homme. C'est une œuvre qui ne l'a pas signée et qui a été remaniée, recomposée, rethématisée par justement Hélène de Vogüé et son équipe, bien après sa mort. Et donc c'est une œuvre qui n'est peut-être pas ce qu'on aurait fait Antoine. En tout cas, le fond y est. Et ce fond, il le disait, c'est mon chef-d'œuvre, c'est mon grand œuvre. C'est évidemment l'aboutissement de toute une vie et de toute une. C'est une Bible en quelque sorte. Hein. C'est une Bible dans laquelle, d'ailleurs, il énonce effectivement dans un regard très visionnaire. Il énonce ce que va devenir le monde et particulièrement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'abandon de la biodiversité, l'agonie de l'humain avec l'avènement des robots, l'industrialisation des régulés et en même temps le retour de la barbarie. Tout cela, il le voit déjà en 43. Il le voit, il dit c'est Babel. J'entre dans Babel.
C'était Une vie, une œuvre, Antoine de Saint-Exupéry et le rire des étoiles. Avec Philippe Young, président de la commission Histoire de l'Association aéronautique et astronautique de France. Jocelyne Sauvard, co-auteur dans l'ouvrage collectif Renaissance de Saint-Exupéry aux éditions Écriture. Alain Vircondelet, qui a publié Les trésors du Petit Prince aux éditions Grund. Thierry Dehay, auteur de Saint-Exupéry et les femmes, histoire d'un malentendu, aux éditions du Palio. David Le Breton, Le Petit Prince comme leçon sur la sagesse et la folie des hommes, aux éditions M édité. Archivina, Catherine Louboutin. Lecture, Pierre Freinet, Jean-Louis Trintignant, avec les témoignages d'André Mauroy, de Léon-Paul Fargue, de Jean Renoir. Extrait de Vol de nuit, adaptation dramatique de 1944. Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Ghislaine David. Un documentaire de Lydia Benitzrak.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, ce sera le temps des écrivains. La semaine prochaine, place à Imagine, au Centre Georges Pompidou. Et le 8 avril, ce sera Une vie, une œuvre, Jacques Prévert.